toujours à l'aérospatial ici à CKRL et on va maintenant vers la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 18 novembre. Vous pouvez y voir une exposition en duo de Samuel Breton et Patrick Sternon. Et pour nous présenter cette exposition-là qui regroupe essentiellement donc 6 grandes toiles ou grandes pièces, pourrait-on dire, puisqu'il y a quand même aussi mixité de techniques, de genre et de style. Alors, pour nous la présenter, cette exposition-là, on est en compagnie des deux artistes. Patrick Sternon, bonjour.
Bonjour.
Samuel Breton, bonjour.
Bonjour.
Et j'imagine, en fait, que l'alliance, si on peut dire, pour cette exposition-là est venue à l'initiative de la Galerie des arts visuels. Est-ce que vous avez l'impression, quand on vous a dit que vous exposeriez ensemble, que parenté, justement, qu'il y a des ponts à faire entre votre travail, entre vos démarches?
En effet, principalement, c'est le collage comme étant la base de nos œuvres. La stratégie créative, si on veut. Et principalement aussi, on fait de la peinture. Donc, c'est vraiment les deux éléments principaux pour Patrick.
Ouais, ben oui. Absolument. Donc, c'est vraiment les rapports de disparité entre... de disparité iconographique, somme toute. Corrige-moi si je dis n'importe quoi, Samuel. Qui est un peu la base. Tu parlais de stratégie, c'est vraiment les fondements. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on a un rapport, justement, à la disparité, à l'hétérogénéité qui est justement différent. Et en soi, il y a des rapports hétérogènes entre nos deux pratiques, justement.
Oui, je pense, en fait, le terme collage et la mixité de techniques, c'est probablement la première chose qui saute aux yeux dans vos toiles. On le voit, en fait, du côté de Patrick Sternon, des éléments très naturalistes qui sont adjoints à des éléments vraiment plus sketch, croquis, différents types de traits. C'est la même chose aussi du côté de Samuel Breton, où encore là, il y a des éléments très naturalistes, il y a des éléments qui s'apparentent aussi au croquis. Qu'est-ce qui fait justement que vous aimez ce métissage peut-être des techniques ou des approches visuelles? Peut-être je lancerai la question à Patrick.
Oui. C'est une très très bonne question en fait. Je saurais pas dire. En fait, c'est tout naturel. C'est vraiment, ça a été induit beaucoup par, je dirais, les influences, grosso modo, le milieu culturel. Oui. En fait, la peinture, je dirais que mon approche de la peinture ressemble est quand même... Ce que je fais, on le voit pas, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le milieu, en fait. J'ai une approche toute personnelle, justement. Je parle tout à l'heure d'hétérogénéité iconographique, mais là, je parle aussi d'hétérogénéité formelle. J'ai une approche vraiment toute personnelle qui est justement en rupture avec, je pense, le reste des approches picturales que je vois autour de moi. Ça reste quand même infléchi par, justement, j'ai pas inventé l'hétérogénéité en peinture. Ça vient des années 80, selon moi, mon interprétation toute personnelle de l'histoire de l'art, mais je pense que ça rejoint celle de beaucoup de gens. Ça vient de l'époque des années 80, où il y avait comme une réhabilitation de la peinture, justement. Et les rapports d'hétérogénéité ont vraiment participé à cette réhabilitation de la peinture. Et ça se poursuit, je sais pas pourquoi, encore aujourd'hui. C'est peut-être cette affluence d'images, c'est un cliché de parler de ça, là, mais cette affluence d'images dans les médias, on est bombardé d'images à nos jours. Vous aurez probablement vu, mais même à l'âge de 15 ans, vous aviez vu plus d'images que Michel-Ange à la fin de sa vie, qui est mort à 80... Bon, des historiens de l'art me corrigeront encore, mais je pense qu'il est mort vers l'âge de 90 ans, donc il a une longue vie.
Donc vraiment côté hétérogène, jouer un peu avec les images, la quantité d'images. Est-ce que c'est quelque chose de similaire qui vous a amené vers cette piste-là, Samuel Breton, ou vous c'est vraiment autre chose qui vous a amené à justement préconiser un peu ce métissage-là?
Je parlais d'une stratégie de création tantôt. Cette stratégie-là, si on veut, je suis un genre de dessinateur d'observation, mais médiatisé. Médiatisé dans le sens où ce que je consomme, mettons, le cinéma, je regarde des vieux films de Godard et je dessine à partir de ces films-là. Le média se trouve à être entre moi et mon dessin d'observation. J'observe pas particulièrement la nature, j'observe vraiment notre culture visuelle. Et c'est là que la manière que j'observe la culture s'établit dans le temps. Et je dessine un élément, je vais dessiner un vêtement, je vais dessiner une architecture, et c'est cette manière-là d'observer et par étapes et donne une image qui est composée en collage, donne une image qui est structurée, si on veut, qui se structure dans le temps. Je sais pas trop.
Oui, puis en même temps, il y a des éléments aussi pour que les auditeurs auditrices puissent se figurer. Il y a les éléments qui transcendent aussi ou qui sortent d'une époque à l'autre. Il y a des éléments qui sont presque issus des années 60, d'autres qui sont très actuels. On duplique donc des images donc des années 60. T'as par exemple le play qu'on pourrait retrouver sur un iPod.
Exactement. Le sigle lecture qui devient dans l'œuvre Doublure Générale, qui est vraiment issu de références cinématographiques, clairement français, clairement également peut-être moins clair, mais Sergio Leone. Et donc, autant l'image semble être vraiment issue des années 60, vraiment vieillot et vraiment cinématographique, autant tout d'un coup, il y a le sigle lecture qui est additionné à cette image-là et qui nous oblige à constater que cette image provient du présent. Parce que ce sigle lecture-là est vraiment, se retrouve abondamment sur les sites de diffusion vidéographique d'aujourd'hui sur Internet.
Donc, ça nous amène à changer le contexte d'observation, à changer l'analyse de la lecture qu'on ferait initialement de l'œuvre si cet élément-là n'était pas là.
Exact. Et de comprendre que finalement, moi, la manière que je consomme ces images cinématographiques-là est vraiment différente que quelqu'un qui les aurait consommées dans les années 60. Je suis pas en train de dessiner dans la salle de cinéma conventionnelle. Moi, je suis devant mon ordinateur, je suis sur Internet et je cherche mes fragments de cinéma. Et donc, vraiment un rapport contemporain à ce cinéma-là.
Et ce qui est plaisant, justement, dans ce qu'on découvre à la Galerie des arts visuels, c'est vraiment aussi des modes de lecture, de regard, d'observation. Il y a des divisions aussi, peut-être même, de l'espace qui sont présentes. On parlait de l'aspect collage chez Samuel, notamment, et aussi chez Patrick Sternon, où, dans le fond, c'est des masses qui sont occupées, donc des masses, parfois à forme géométrique, rectangulaire. Dans une des œuvres, vous occupez principalement le pourtour de l'œuvre et le centre est laissé à, essentiellement, un élément coloré qui fait référence au styrofoam. On s'amuse donc à organiser comme ça son occupation de l'espace. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ça?
Mais je trouve ça très intéressant que vous me parliez de, je le dis en mes mots, de rupture. C'est ma formule à moi. Vous me soulignez tout à l'heure, d'ailleurs, que vous trouviez que, justement, il y avait des masses, des ruptures plus fortes. J'utilise le hard edge et tout ça. Ceci dit, je trouve que mes compositions sont vraiment plus harmonisées en ce sens... pas plus harmonieuse, on s'entend bien, mais plus harmonisée que celle de Samuel, si je compare les deux espaces, les deux compositions. C'est assez... En fait, c'est très... ça m'étonne quand même pas mal. Je trouve ça très intéressant qu'on me dise ça, parce que c'était vraiment ça que je recherchais au départ. J'ai toujours trouvé que mes compositions étaient justement trop harmonisées selon mes objectifs. Mon but, c'était vraiment d'évacuer un peu ou le plus possible le souci de la composition dans la création. Et donc, c'était un peu dans une recherche de rupture, de disparité, d'hétérogénéité vraiment pure, qui était un peu chimérique en soi, parce que ça n'existe pas l'hétérogénéité pure en peinture.
Et donc, ça change. Encore là, on parlait de lecture tout à l'heure, mais on passe, par exemple, il y a une des toiles où d'un côté, il y a donc un interrupteur très naturaliste, on le mentionnait tout à l'heure, au côté d'autres éléments qui font référence à la lumière, mais beaucoup plus en croquis, beaucoup plus libre. Donc, une pièce très ferme, une autre plus libre. Donc, il y a un élément de lecture. En fait, il y a la notion de tout, mais quand on passe d'une section à l'autre, il y a vraiment, vous parlez de rupture, la rupture est claire et nette et définie dans celle-là.
Oui, dans cette toile-là en particulier, j'ai vraiment voulu m'imposer ça, évacuer vraiment le souci de la composition le plus possible. J'y suis pas parvenu réellement en réalité, parce que si on observe bien, j'ai vraiment intégré chacun des éléments, les vis de l'interrupteur par exemple, l'interrupteur lui-même, dans justement un ensemble, une composition. Donc j'ai intégré l'interrupteur, la représentation de l'interrupteur lui-même, dans un rapport avec l'autre partie, même s'il divise complètement l'espace en deux, le scinde en deux, puis vraiment, en fait, je divise l'espace en deux moitiés égales, carrément. Donc, j'accuse les limites de la toile de cette façon-là. C'est assez... en garde les proportions de l'interrupteur, bien sûr. Il y a un rapport d'échelle, bien sûr, qui est assez, qui est bien sûr différent, là, qui, bien, un rapport d'échelle, je parle d'un interrupteur, un objet tout petit qui est reproduit aux dimensions de la toile elle-même. Et donc, ça fait que, ben, effectivement, je me retrouve dans des rapports finalement d'hétérogénéité et en même temps de fusion avec le subjectif.
Et dans ça, en fait, on parle aussi d'éléments de composition. Je fais le saut vers Samuel Breton. Dans la mixité, au-delà de la peinture, on rajoute l'autre élément. On parlait de ce plaid, par exemple. Il y a une autre toile qui est beaucoup plus à saveur historique, où on retrouve des images, une image d'archives. Et ces éléments-là sont apportés par la projection. Donc, vraiment, sont internes, sont intégrés dans la composition, mais sont externes à la toile. Pourquoi cette approche-là?
Cette interaction entre l'image fixe et l'image animée,
exactement,
qui se trouve être ma grande problématique. La peinture en soi présente des collages, différentes scènes qui semblent très harmonieuses, et finalement, l'ultime collage devient cette projection-là qui est le temps. Une projection qui fait plus référence à l'aujourd'hui. Encore une fois, oui, le play, il pulse comme les plays qu'on peut voir sur les sigles de lecture qu'on peut voir sur Internet, mais dans l'autre toile qui est le lion, la veuve et Truman, on a une tête de lion qui est bien modelée en peinture, à côté d'un visage de vieille dame qui semble, si on regarde bien la peinture, ce n'est que les traits qui sont peints, mais sinon l'intérieur, les masses, c'est complètement c'est presque vide, mais c'est vide pour laisser apparaître, grâce à la projection, l'image de référence. Et tout d'un coup, cette vieille-là prend ses rides, prend son expression qui était, si on veut, d'origine. Et tout ça est comme additionné à la scène de rue très sombre de pluie, qui, moi, je sais exactement d'où vient la référence, et ça vient vraiment de l'élection de Truman. Truman qui est élu, les gens s'attroupent dans la rue, et le photographe prend cette vue de l'élection de Truman. Moi, je l'intègre dans ma toile, et finalement, je superpose à cette toile-là une lecture qui est fondamentalement politique. Si, au premier regard, quand on regarde le lion, la veuve et Truman, on ne voit qu'une belle tête de lion très humanisée, une vieille dame les yeux fermés et une scène de nuit qui est superposée à tout ça. Et tout d'un coup, quand on met les écouteurs sur nos oreilles, étant donné que Truman nous parle de communisme et de démocratie, un speech presque fondateur de la guerre froide, cette image-là semble donc politique. Mm-hmm. Mais ce n'est qu'un collage, c'est l'addition des différents collages crée cette magie-là. J'additionne un propos politique, mais finalement ce propos politique-là est absent de l'image, et pourtant elle, grâce à l'audio, il devient très présent.
Oui, mais en fait, essentiel à la compréhension, au bout du compte, de l'image complète qui, séparée, ou les éléments séparés, on serait incapable d'avoir une lecture complète, dans le fond, de ce que vous nous proposez.
Oui, en effet.
Et peut-être en terminant, puisqu'on parle d'éléments aussi de composition, d'éléments référentiels, en une minute, Patrick Sternon, à la précédente exposition que vous aviez faite, qui avait roulé notamment du côté du Saguenay, il y avait beaucoup d'éléments référentiels, ces concours d'espace. On joue un peu avec différentes références à l'histoire de l'art. Dans une des toiles, il me semblait avoir une référence à Judith et Holoferne.
Oui.
Est-ce qu'on joue encore avec l'aspect référentiel dans ce que vous présentez à la Galerie des arts visuels?
Tout ce qui est narration, icône, de mon côté, c'est un peu le contraire de Sam. Samuel, il contrôle la signifiance des icônes, des figurations. Et ça, c'est quelque chose que j'admire quand même chez lui. Moi, c'est le contraire. C'est purement inconscient. Et quand je fais des citations de l'histoire de l'art, j'ai pas du tout l'intention qu'on les reconnaisse forcément. Et ça m'a beaucoup impressionné que vous ayez reconnu Judith et Holoferne, justement. Souvent, les gens, en regardant ça, étonnamment, me parlent des Ménines de Velázquez, parce que c'est la citation parfaite, la citation par excellence de l'histoire de l'art. Mais ils sentent qu'il y a une citation, ils savent pas quoi, et c'est précisément ça que je veux. Donc, je voulais pas que vous deviniez forcément que c'était Judith et Holoferne, je voulais brouiller cette citation-là pour laisser une impression de déjà-vu, et c'est ce déjà-vu-là dans les icônes que je recherche.
Alors, en fait, vraiment, des œuvres à découvrir, à aller lire, à aller profiter. On vous en parle, mais évidemment, c'est sur place qu'on découvre donc la richesse de ce que vous nous proposez, de ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Alors, je le rappelle, c'est à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, donc dans l'édifice La Fabrique sur le boulevard Charest. C'est jusqu'au 18 novembre prochain. Donc, Samuel Breton, Patrick Sternon, merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.